Livre 5, contenant un peu plus de 6 mois. Chapitre 1er. Du style sérieux et pour quel motif on l'emploie. Il arrivera peut-être que les endroits de ce volumineux ouvrage, qui auront coûté le plus de peine à l'auteur, seront précisément ceux qui procureront le moins de plaisir au lecteur. Tel sera probablement le sort de ces essais, dont nous faisons précéder la partie historique de chaque livre, et que nous avons jugé nécessaire à ce genre d'écrit dont nous avons été les inventeurs. Nous ne nous croyons pas strictement obligés de donner au public les raisons qui nous ont déterminés à adopter cette forme, puisqu'il est plus que suffisant que nous en ayons fait une règle nécessaire à observer dans tout écrit prosaïque ou mi-épique. Qui a jamais demandé les raisons de cette unité de temps et de lieu qui est reconnue de nos jours comme essentielle à la poésie dramatique? Pourquoi un drame ne peut-il pas contenir 2 jours aussi bien qu'un seul? Ou pourquoi les auditeurs, pourvu qu'on les fasse voyager comme des électeurs, sans qu'il leur en coûte rien, ne feraient-ils pas 50 000 aussi bien que 5? Aucun commentateur nous a-t-il jamais découvert les motifs pour lesquels un ancien critique a établi qu'un drame ne contiendra jamais ni plus ni moins de 5 actes? Aucun homme vivant a-t-il entrepris d'expliquer ce que les juges modernes de nos théâtres entendent par le mot « bas », avec lequel ils ont heureusement réussi à bannir de la scène toute gaieté et ont rendu le théâtre aussi ennuyeux que nos salons? Dans tous ces cas, le monde semble avoir pris pour devise cette maxime d'une de nos lois. « Cuicumque in arte sua perito credendum est » Il faut s'en rapporter à quiconque est savant dans son art. Car il semblerait peut-être difficile à concevoir que l'on eût assez d'imprudence pour établir dogmatiquement des règles dans un art ou dans une science qu'on ne posséderait point. D'où nous sommes autorisés à conclure qu'il y a, dans le fond, de bonnes et sages raisons pour toutes ces règles, quoique nous soyons malheureusement incapables de les discerner. Il faut avouer qu'on a fait beaucoup trop d'honneur aux critiques, en les jugeant plus profonds qu'ils ne le sont réellement. Cette complaisance les a enhardis à usurper un pouvoir dictatorial. Et ils y ont si bien réussi qu'ils se sont rendus les maîtres des auteurs et ont eu l'insolence de donner des lois à ceux dont les prédécesseurs leur en donnaient à eux-mêmes. Le critique, considéré comme il doit l'être, n'est rien de plus qu'un greffier dont la fonction est d'enregistrer les règles et les lois établies par ces grands juges que la vaste étendue de leur génie a rendu les législateurs des différentes sciences dans lesquelles ils excellaient. Cette fonction faisait toute l'ambition des anciens critiques, et ils n'osaient jamais prononcer une sentence sans l'appuyer de l'autorité du juge dont ils l'avaient empruntée. Mais dans la suite des temps et dans les siècles d'ignorance, le greffier s'empara du pouvoir et se revêtit de la dignité de son maître. Les règles de la littérature ne furent plus fondées sur la pratique des auteurs, mais sur les arrêts des critiques. Le greffier devint législateur. Et cela finirent par donner des lois dont la fonction n'était d'abord que de les enregistrer. De là naquit une erreur sensible et peut-être inévitable. Car ces critiques, étant de petits esprits, ont souvent confondu le fond avec ce qui n'était que de forme. Ils se sont conduits comme des juges qui s'attacheraient froidement à la lettre de la loi et en rejetteraient l'esprit. De petites fautes qui n'étaient peut-être que des négligences dans un grand auteur, furent considérées par ses critiques comme constituant son principal mérite et transmises à leurs successeurs comme essentielles à observer. Le temps et l'ignorance, ces 2 grands soutiens de l'imposture, autorisèrent les usurpations. Et l'on a vu ainsi s'établir dans la République des Lettres des règles qui n'avaient pour base ni la vérité ni la nature et qui ne servent communément qu'à enchaîner le génie, comme il serait arrivé dans l'art de la danse, si beaucoup d'excellents traités sur cet art avaient établi comme une règle essentielle qu'on ne danserait jamais sans avoir les fers aux pieds et aux mains. Afin donc d'éviter toute accusation d'établir pour la postérité une règle fondée seulement sur l'autorité de ipse dixit, le maître l'a dit, autorité pour laquelle nous confessons ne pas avoir le plus profond respect, nous renoncerons ici à tout privilège, et nous allons mettre sous les yeux du lecteur les raisons qui nous ont engagés à semer ces divers essais ou digressions dans le cours de cet ouvrage. Cela nous conduira nécessairement à découvrir une nouvelle source de connaissances, dans laquelle, si toutefois elle a été précédemment connue, nous ne nous souvenons point qu'aucun écrivain ancien ou moderne ait puisé avant nous. Cette source n'est autre que celle du contraste qui se fait apercevoir dans tous les ouvrages de la création, et qui contribue très probablement à nous donner en grande partie l'idée de la beauté soit naturelle, soit artificielle. Car il n'y a que l'opposé d'une chose qui en démontre la beauté et l'excellence. Ainsi, la beauté du jour et de l'été est relevée par les horreurs de la nuit et les rigueurs de l'hiver. Et je crois que, s'il était possible qu'un homme n'eût vu que les deux premiers, il n'aurait qu'une idée bien imparfaite de leur beauté. Mais pour ne pas continuer sur un ton aussi sérieux, peut-on douter que la plus jolie femme du monde ne perdît une grande partie de ses charmes aux yeux d'un homme qui n'en aurait pas vu de l'aide? Les femmes elles-mêmes sentent si vivement cette vérité qu'elles sont toutes très ingénieuses à se procurer de contrastes. Il y en a qui s'en servent à elles-mêmes, car j'ai observé, notamment à Banff, qu'elles tâchent de paraître aussi laides qu'il est possible dans la matinée, afin de relever la beauté qu'elles ont le projet d'étaler le soir. Beaucoup d'artistes ont mis ce secret en usage, quoique quelques-uns n'en aient peut-être pas assez étudié la théorie. Le joaillier sait très bien que le plus beau brillant a besoin que son éclat soit relevé, et le peintre a souvent obtenu les applaudissements des connaisseurs par le seul contraste de ses figures. Un grand génie de notre nation expliquera ceci plus clairement, et je me garderai bien de le ranger dans la classe générale des artistes vulgaires, car il a des titres pour être placé parmi ceux « in vintas qui vitam excoluere per artes » qui se sont illustrés en inventant des arts. Je veux parler ici de l'auteur de cette charmante invention appelée pantomime anglaise. Cette nouveauté consiste en deux parties, que l'inventeur a distinguées par les noms de sérieux et de comique. Le sérieux présentait un certain nombre de dieux et de héros païens qui étaient certainement la pire et la plus ennuyeuse compagnie que l'on put offrir à une nombreuse assemblée, et à l'insu de presque tous les spectateurs, remplissait les vues de l'auteur en contrastant avec le comique de la pièce et en faisant valoir davantage les tours et les lazzis d'Arlequin. Ce n'était pas assurément traité d'aussi grand personnage avec beaucoup de respect. Néanmoins, cet essai parut assez ingénieux et produisit son effet. Ce qui sera plus sensible si, aux mots sérieux et comiques, nous substituons ceux de plus ennuyeux et de beaucoup plus ennuyeux, car le comique était certainement plus ennuyeux que ce qu'on avait vu auparavant sur le théâtre, et ne pouvait être embelli que par ce degré superlatif d'ennui que procurait le sérieux. Ces dieux et ces héros étaient réellement d'un sérieux si insoutenable qu'Arlequin était toujours bienvenu, ne fût-ce que parce qu'il débarrassait l'auditoire d'une compagnie plus mauvaise encore, quoique les Arlequins anglais ne soient point du tout parents des Arlequins français, et aient conservé jusqu'ici un caractère beaucoup plus sérieux. Les écrivains judicieux ont toujours mis cet art du contraste en pratique avec beaucoup de succès, et je m'étonne qu'Horace reproche à Homère de s'en être servi. Mais il est de fait qu'il se contredit lui-même dans le vers qui suit immédiatement. Indignor quandoque bonus dormitat Homerus, verum opere in longo fas est obrepere somnum. Quand Homère s'endort, je souffre, je m'indigne. Mais dans un long ouvrage, on peut bien s'endormir. Car il ne faut pas entendre ici, comme quelques-uns l'ont peut-être fait, qu'un auteur s'endorme en écrivant. Il est vrai que cela arrive fréquemment au lecteur. Mais quand l'ouvrage serait aussi long qu'aucun de ceux de Holt Mixon, l'auteur lui-même a trop de plaisir pour être sujet au plus léger assoupissement. Et comme dit Pope, il ne dort pas pour que son lecteur dorme. À dire vrai, ces parties soporifiques d'un ouvrage sont précisément cette foule de scènes sérieuses, artistement mélangées, à dessein de contraster avec le reste et de le faire valoir. C'est ce que faisait entendre un célèbre écrivain qui ne vit plus, Richard Steele, quand il disait plaisamment à ses lecteurs que toutes les fois qu'il était ennuyeux, on pouvait être sûr qu'il avait ses raisons pour cela. C'est sous ce point de vue, ou plutôt à travers cette obscurité, que je prie le lecteur de considérer ses essais. Après cet avertissement, s'il pense qu'il trouvera assez de sérieux dans les autres parties de cette histoire, il peut sauter par-dessus ses premiers chapitres, dans lesquels nous convenons que nous sommes laborieusement ennuyeux, et commencer le livre suivant par le second chapitre. Chapitre 2. Monsieur Jones reçoit les visites d'un grand nombre d'amis, tandis qu'il est retenu dans sa chambre. Quelques traits délicats de la passion de l'amour que l'œil seul ne pourrait apercevoir. Tom Jones eut, pendant qu'il garda la chambre, beaucoup de visites, dont quelques-unes peut-être ne lui furent pas très agréables. M. Allworthy le voyait presque tous les jours, mais quoiqu'il fût sensible à ses souffrances et approuva beaucoup la généreuse conduite qu'il lui avait occasionnée, il pensa que c'était une circonstance favorable pour lui faire sentir combien il était en général étourdi, imprudent, et pour lui donner quelques avis salutaires lorsque ses esprits étaient un peu abattus par la douleur, encore alarmés du danger qu'il avait couru, et que son attention n'était plus distraite par ces passions turbulentes qui nous entraînent à la poursuite du plaisir. Toutes les fois donc que cet excellent homme se trouvait avec Jones, et notamment lorsqu'il fut tout à fait guéri, il prenait occasion de lui rappeler toutes ses fautes, mais de la manière la plus douce et la plus tendre, et seulement pour lui indiquer les précautions qu'il l'invitait à prendre pour sa conduite future, dont il l'assurait que dépendrait son bonheur et les bontés qu'il pouvait encore espérer de lui, à moins que par la suite il ne se rendît indigne de son estime. Car, ajouta-t-il, quant à ce qui s'est passé, tout sera oublié et pardonné. Il lui conseilla donc de tirer parti de cet accident, en le considérant comme une affliction que Dieu lui avait envoyée pour son bien. Thwackum était aussi fort assidu dans ses visites, et regardait également la chambre d'un malade comme un lieu convenable à ses sermons. Mais son style était plus sévère que celui de M. Allworthy. Il disait à son disciple qu'il devait considérer son accident comme une punition du ciel pour ses péchés, qu'il devrait être sans cesse à genoux et remercier Dieu 1000 fois de ce qu'il ne s'était pas cassé le cou aussi bien que le bras, ce qui lui arriverait sans doute à la première occasion, qui n'était peut-être pas très éloignée, que, quant à lui, il s'était souvent étonné que le ciel ne l'eût pas puni plus tôt. Mais cet accident prouvait, à son avis, que la vengeance divine, quoique lente, n'en était pas moins sûre. Il lui conseillait de regarder comme une chose certaine qu'il était encore menacé de plus grands dangers, qui, comme celui-ci, le surprendrait dans son état de réprouvé. « Vous ne pouvez les détourner, ajouta-t-il, que par un profond et sincère repentir, que l'on ne peut attendre ni espérer d'un jeune homme aussi abandonné que vous, et dont le cœur, je le crains bien, est totalement corrompu. Il est toutefois de mon devoir de vous y exhorter, quoique je sache trop bien que toutes mes remontrances vous seront inutiles et ne porteront aucun fruit. Mais liberavi animam meam, j'ai libéré mon âme. Je n'aurai pas de reproche à me faire. Ma conscience est nette. Je n'aurai rien négligé. C'est en même temps avec le plus grand chagrin que je vous vois courir à votre ruine dans ce monde et à une damnation certaine dans l'autre. » Square parlait tout différemment. Il disait qu'un bras cassé était un de ces accidents qui n'étaient pas dignes de la considération du sage, qu'il suffisait pour tranquilliser l'esprit sur ces sortes de malheurs de réfléchir qu'il pouvait aussi bien tomber sur le meilleur des hommes, et que l'on ne pouvait douter qu'il n'arrivasse pour le bien de tous. Il disait que c'était un pur abus de mots de donner le nom de malheur à ces accidents dans lesquels le moral n'entrait pour rien, que la douleur qui en était le résultat le plus fâcheux était la chose la plus méprisable du monde. Il prodiguait en outre une foule de maximes semblables tirées du second livre des Tusculanes de Cicéron et des ouvrages du célèbre Lord Shaftesbury. Et il mit un jour tant de chaleur à les débiter qu'il eut le malheur de se mordre la langue, en sorte que non seulement il fut obligé de mettre fin à son discours, mais il en ressentit une douleur si vive qu'il ne put s'empêcher de jurer tout bas une ou deux fois. Le pis de tout cela fut que Thwackum, qui était présent, et considérait une semblable doctrine comme celle d'un païen et d'un athée, prit occasion de cet accident pour l'appeler une punition du ciel, en y joignant un sourire malin qui mit tout à fait hors de ses gonds, si je puis m'exprimer ainsi, le pauvre philosophe que la morsure de sa langue avait déjà un peu agité. Et comme il n'était pas en état de soulager sa colère par des paroles, il aurait peut-être employé un moyen plus violent de se venger si le chirurgien qui se trouvait heureusement dans la chambre, agissant contre ses intérêts, ne se fût mis entre eux pour s'y opposer. M. Blifil ne venait voir son ami Jones que rarement, et jamais sans être accompagné. Ce digne jeune homme affichait cependant beaucoup d'attachement pour lui, et paraissait prendre non moins d'intérêt à son accident. Mais il évitait soigneusement la plus petite intimité, de peur, comme il le donnait souvent à entendre, de courir le danger de se corrompre. Aussi avait-il constamment à la bouche ce proverbe de Salomon, qui défend toute espèce de communication avec les méchants. Non qu'il fût dans ses discours aussi amer que Thwackum, car il disait souvent qu'il ne fallait pas désespérer que Tom ne se réformât un jour. Car un jeune homme, qui n'est pas tout à fait corrompu, doit y être amené par la bonté sans pareille que mon oncle daigne lui montrer en cette occasion. Mais si M. Jones se rend encore coupable par la suite, j'aurai la douleur, ajouta-t-il en finissant, de ne pouvoir plus dire un mot en sa faveur. Quant à M. Weston, il ne quittait presque pas la chambre du malade, excepté quand il était occupé à chasser ou à boire. Il venait même souvent s'y désaltérer avec une bouteille de bière, et ce n'était pas sans peine qu'on l'empêchait d'obliger Tom à en prendre sa part. Car aucun vendeur d'Orvietan n'oserait attribuer à ces petites bouteilles autant d'efficacité que M. Weston en attribuait à la bière, qui, disait-il, a plus de vertu qu'il n'y en a dans toutes les médecines de toutes les apothicaireries du monde. Cependant, à force d'instances, on obtint de lui que Jones pourrait s'en abstenir. Mais il fut impossible de le guérir de la manie de faire entendre le son du cor sous la fenêtre du malade tous les matins des jours de chasse, et il ne put se déshabituer, quand il entrait chez Tom Jones, de crier plusieurs fois, sans s'informer si le malade dormait ou était éveillé, « Tayo, Tayo, Tayo !» ce qu'il faisait d'ailleurs en quelques lieux qu'il entra. La santé de Jones aurait pu souffrir de tous ces bruyants éclats, d'ailleurs fort innocents, mais ils ne lui firent heureusement aucun mal. Leur importunité fut plus que compensée pour lui par la société de Sophie que M. Weston lui amena pour lui tenir compagnie, aussitôt qu'il fut en état de se lever. Peu de temps après, Jones eut la force de descendre dans le salon de musique où Sophie avait la complaisance de lui faire entendre pendant des heures entières la musique la plus délicieuse, à moins qu'il ne plût à M. Weston de l'interrompre pour lui faire jouer le vieux Sir Simon ou quelque autre de ses airs favoris. Malgré l'extrême réserve que Sophie tâchait de garder dans sa conduite, elle ne pouvait sauver toutes les apparences, car l'amour peut encore être comparé à une maladie, en ce que, quand on lui bouche le passage d'un côté, elle s'échappe certainement par un autre. Ainsi ses yeux, sa rougeur et beaucoup de petits gestes involontaires disaient ce que sa bouche n'osait exprimer. Un jour que Sophie jouait du clavecin et que Tom Jones était auprès d'elle, M. Weston entra en s'écriant « Morbleu, Tom, je viens d'avoir là-bas à ton sujet une querelle avec le pesant ministre Thwackum. Il a dit à Holworthy, devant moi, que ton bras cassé était une punition du ciel. « Dieu me damne, lui ai-je dit, comment cela peut-il être? N'accourut-il pas au secours d'une jeune femme? Une punition, tête bleue, s'il ne fait jamais rien de pis, il ira au ciel plutôt que tous les ministres du comté. Il a plus de raison de s'en glorifier que d'en être honteux. En vérité, monsieur, répondit Jones, ni l'un ni l'autre ne me conviendrait. Mais si j'ai sauvé Miss Weston de quelque danger, je considérerai toujours cet accident comme le plus heureux de ma vie. » « Comment, répliqua M. Weston, aller irriter Holworthy contre toi pour cela? Dieu me damne, si le ministre n'avait pas eu ses habits d'église, je crois que je l'aurais battu. Car je t'aime tendrement, mon enfant, et Dieu me damne, s'il y a quelque chose en mon pouvoir, que je ne voulusse faire pour toi. De tous les chevaux qui sont dans mon écurie, choisis demain matin celui que tu voudras. Je n'en accepte que le chevalier et la paysanne. » Jones le remercia, mais refusa son offre. « Prends même, si tu veux, ajouta M. Weston, la jument alsane que montait Sophie. Elle me coûte 50 guinées et prendra 6 ans aux herbes. M'en eût-elle coûté 1000, s'écria Jones avec vivacité, je la ferais jeter au chien. « Fi, fi, répondit M. Weston. « Quoi? Parce qu'elle t'a cassé un bras? Faut oublier, pardonner. Serais-tu homme à en vouloir à un animal ?» Ici, Sophie arrêta la conversation, en demandant à son père la permission de jouer du clavecin, ce qui ne lui était jamais refusé. Son teint avait changé plus d'une fois de couleur pendant l'entretien précédent, et probablement elle attribuait le vif ressentiment que Jones avait montré contre la jument à un motif différent de celui que son père lui avait supposé. Son agitation était trop visible, et elle joua si détestablement que si M. Weston ne s'était pas bientôt endormi, il s'en serait infailliblement aperçu. Cependant, Jones, qui ne dormait pas, et dont les yeux et les oreilles étaient également attentifs, fit quelques observations qui, jointes à tous ceux dont le lecteur peut se souvenir, lui donnèrent, quand il vint à réfléchir sur ce qui s'était passé, d'assez fortes assurances que tout n'était pas tranquille dans le tendre cœur de Sophie. Je ne doute pas qu'un grand nombre de jeunes gens ne soient extrêmement étonnés que depuis longtemps il ne se fût pas confirmé dans cette opinion. Mais il faut convenir qu'il se méfiait trop de lui-même, et n'avait pas assez d'orgueil pour voir des avances dans la conduite de cette jeune personne. Cette méfiance était sans doute une sottise, dont peut seule guérir l'éducation précoce des villes, qui est à présent si généralement à la mode. Quand ces pensées se furent emparées de Jones, elles occasionnèrent dans son cœur une agitation qui, sur un tempérament moins sain et moins fort que le sien, aurait pu, dans la situation, avoir de très dangereuses conséquences. Il sentait véritablement tout le mérite de Sophie. Il aimait extrêmement sa personne, n'admirait pas moins ses talents, adorait sa bonté. Et comme il n'avait jamais conçu la pensée de l'épouser, comme il ne s'était jamais volontairement abandonné à son inclination, il est de fait qu'il avait pour elle, au fond du cœur, une beaucoup plus forte passion qu'il ne le croyait, secret qui ne lui fut clairement dévoilé qu'au moment où il crut avoir la certitude d'être aimé. Chapitre 3. Que ceux qui n'ont pas un cœur croiront contenir beaucoup de paroles et peu de choses. Le lecteur imaginera peut-être que les sensations que Jones éprouvait en ce moment étaient si douces et si délicieuses qu'elles devaient plutôt produire dans son cœur une heureuse sérénité qu'aucun des effets dangereux dont nous avons parlé. Mais, dans la vérité, des sensations de cette espèce sont, au moment qu'on s'en aperçoit, d'une nature peu tranquille, et n'invite pas extrêmement au sommeil. Elles étaient d'ailleurs, dans le cas présent, aigries par certaines circonstances, qui, mêlées avec des ingrédients plus doux, composaient une passion que l'on pourrait nommer aigre-douce, laquelle, étant ce qu'il y a de plus désagréable au palais, était, en continuant la métaphore, très contraire au repos de son cœur. Car, d'abord, quoique ce qu'il avait observé dans Sophie l'autorisât suffisamment à se flatter, il doutait encore s'il ne se trompait pas, en prenant la simple compassion, ou même l'estime, pour une passion plus vive. Il était loin d'avoir une confiance assez hardie pour se promettre que Sophie l'aimât au point de lui faire espérer de l'épouser un jour. S'il pouvait, d'ailleurs, se flatter de ne pas trouver d'obstacle à son bonheur du côté de la jeune personne, il ne doutait pas qu'il n'en rencontrât d'insurmontable du côté du père, qui, gentilhomme de campagne, en ce qui regardait ses délassements, était entièrement homme du monde sous le rapport de la fortune, aimait passionnément sa fille unique, et avait souvent déclaré, au milieu de ses parties de plaisir, qu'il ne la donnerait qu'à un des hommes les plus riches du comté. Jones n'était ni assez vain, ni assez fat pour s'attendre, malgré l'amitié que Weston lui témoignait, que ce tendre père pût jamais renoncer à ses vues d'établissement pour sa fille. Il savait très bien que la fortune est généralement la principale, sinon la seule considération qui agisse sur les meilleurs pères en ces importantes occasions. Car l'amitié nous fait épouser avec chaleur l'intérêt des autres, mais elle est bien froide lorsqu'il s'agit de servir leur passion. Et pour sentir tout le bonheur que donne celle dont il s'agit ici, il faut être soi-même amoureux. Tom n'avait donc aucune espérance d'obtenir le consentement du père de Sophie. Mais il n'en pensait pas moins que s'efforcer de parvenir à son but sans ce consentement, et frustrer par d'aussi vils moyens les hautes espérances de M. Weston, c'était violer les lois sacrées de l'hospitalité, et se montrer excessivement ingrat envers lui pour les bontés qu'il en avait reçues. S'il envisageait ces conséquences, avec autant d'horreur que de mépris, combien ne frémissait-il pas davantage en songeant à M. Allworthy, auquel il avait plus d'obligation qu'un fils n'en a souvent à son père, et pour lequel il avait aussi une piété plus que filiale. Il savait que le caractère de ce digne homme était si opposé à la moindre bassesse et à la plus légère perfidie qu'il ne pourrait supporter la vue ni entendre prononcer le nom de celui qui s'en serait rendu coupable. L'aspect de tant de difficultés insurmontables aurait suffi pour le désespérer, quelle que fût l'ardeur de ses désirs. Mais ses désirs mêmes étaient modérés par la pitié que lui inspirait une autre femme. L'idée de l'aimable Molly vint sur le champ s'offrir à lui. Il lui avait juré entre ses bras une constance éternelle, et elle avait aussi fait le vœu de ne pas survivre à son inconstance. Il la voyait dans les angoisses de la douleur et de la mort. Il se représentait tous les malheurs de la prostitution auxquels elle allait se trouver exposée et dont il serait doublement coupable pour l'avoir séduite et pour l'avoir abandonnée. Car il connaissait parfaitement la haine que toutes ses voisines et même ses propres sœurs avaient pour elle, ainsi que l'empressement qu'elle mettrait à la déchirer si elle le pouvait. La vérité est qu'elle était encore plus enviée que méprisée, et que le mépris qu'on affectait pour elle prenait sa source dans l'envie même qu'elle inspirait. Car beaucoup de femmes qui la traitaient de prostituée enviaient son amant et sa parure, et auraient été charmées de les posséder au même prix. Il prévoyait donc que la ruine entière de cette pauvre fille serait inévitable s'il l'abandonnait. Cette pensée lui déchira l'âme. Il lui semblait que la pauvreté de Molly ne lui donnait aucunement le droit d'aggraver ses infortunes. La bassesse de sa condition ne diminuait pas son malheur à ses yeux, et ne lui semblait pas suffisante pour justifier ou même pallier la faute dont il se rendrait coupable. Mais quel besoin ai-je de chercher à l'excuser? Il n'aurait pu supporter l'idée de ruiner absolument une créature humaine dont il croyait être aimé, et qui lui avait sacrifié son innocence. Son bon cœur plaidait la cause de Molly, non comme un avocat froid et vénal, mais comme y étant intéressé et devant partager en grande partie les maux dont il se serait rendu l'auteur. Quand cet excellent avocat eut suffisamment excité la pitié de Jones, en lui représentant la pauvre Molly dans les plus déchirantes situations de l'infortune, il se servit adroitement d'une autre passion et lui offrit la jeune fille sous les couleurs brillantes de la jeunesse, de la santé et de la beauté, et inspirant, du moins à un cœur sensible, des désirs d'autant plus vifs qu'elle était en même temps l'objet de sa compassion. Au milieu de toutes ces pensées, le pauvre Jones passa une bien longue nuit sans dormir, et dès le lendemain matin, le résultat de ses méditations fut de s'en tenir à Molly et de tâcher d'oublier Sophie. Il demeura dans cette vertueuse résolution tout le jour suivant jusqu'au soir, se plaisant à s'occuper de la seule Molly et rejetant tout ce qui pouvait lui rappeler Sophie. Mais dans cette fatale soirée, un incident de bien peu d'importance remit à flot toutes ses passions et opéra dans son cœur un changement si absolu que nous croyons convenable de le communiquer au lecteur dans un autre chapitre.